L'Express du Grand Paris, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Une émission présentée par Christophe Bordet.
Bienvenue dans l'Express du Grand Paris, nouveau numéro, bien évidemment. Nous allons largement parler des attentes des maires d'Île-de-France aujourd'hui, à quelques semaines maintenant d'un événement important, le grand rendez-vous des maires de la grande région à l'occasion du salon de l'Association des maires d'Île-de-France, l'AMIF, Radio Territoria partenaire. Nous serons présents sur place au parc des Expos de Villepinte les 30 juin et 1er juillet prochains. Soyez là, bien entendu, on vous attend avec un autre partenaire d'ailleurs, tiens, en ce qui nous concerne, que nous aimons beaucoup ici, Alila, promoteur immobilier spécialisé dans le logement aidé, l'Express du Grand Paris en voiture, monsieur le maire.
C'est pas la mer à boire, juste les déboires des mers, des hauts, des bas, les histoires qui donnent le mal de mer.
Alors c'est vrai que les maires parfois ont le mal de mer, parce que quand on voit tout ce qu'ils doivent gérer au quotidien. Émission exceptionnelle, invité exceptionnel, Stéphane Baudet, président de l'AMIF, est avec nous en visio. Bonjour Stéphane Baudet.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. L'Île-de-France, 1268 communes au total, c'est pas rien quand même. Radio Territoria en direct les 30 juin et 1er juillet au salon de l'AMIF, votre association des maires d'Île-de-France. Je le disais il y a un instant, tour de chauffe avec vous, Stéphane Baudet. C'est le salon de la reprise, c'est le salon du rebond après cette crise sanitaire de plus d'un an. C'est presque, j'ai envie de dire, un salon historique, en présentiel, en partie en tout cas.
Oui, c'est d'abord un pari. Alors, on voit d'être réussi, puisque lorsque nous l'avons programmé et qu'on a fait le choix avec le conseil d'administration assez courageux de maintenir une date avant l'été, ça relevait du pari, puisqu'on n'avait pas encore forcément les dates des différentes étapes du décloisonnement, du déconfinement. Voilà, je cherchais mon mot, de la sortie de crise. Et in fine, on arrive quasiment à 24 heures près avec la date butoir qui nous permet d'être d'une certaine manière un peu open bar. Donc oui, c'est un rendez-vous important, le rendez-vous d'une certaine manière de la relance. Il y aura du monde, des élus importants, sans doute des membres du gouvernement pour accompagner cette relance comme nous le faisons à chaque fois, avec un programme dense et évidemment une partie physique et une partie virtuelle, et notamment beaucoup de retransmissions sur les réseaux sociaux.
Alors, quels vont être les moments forts de ce salon 2021 ?
Bah, il va y avoir beaucoup de sujets, évidemment la question de la relance, la question de l'égalité femmes-hommes, la question aussi du début du mandat municipal, puisque finalement il n'y a pas eu de salon l'année dernière, ni le nôtre, ni celui de l'AMF, hein, donc depuis les élections municipales, et donc on va travailler tous les sujets sur lesquels on est en ligne tout au long de l'année. Je pense évidemment bien sûr à nos états généraux sur la décentralisation. Je l'ai évoqué, la question égalité homme-femme, c'est important. La question aussi de l'adaptation au changement climatique, qui sont des sujets évidemment importants, avec le prix de la rénovation énergétique. Enfin voilà, donc des sujets qui sont bien sûr à l'ordre du jour. Il y a bien sûr les questions des thématiques. Il y a aussi le plaisir pour les maires, pour les partenaires entreprises, pour tous les élus, les conseillers municipaux, les maires adjoints, et évidemment aussi pour nos administrations, de pouvoir se retrouver, d'échanger des idées, et puis de mettre le logiciel à jour des sujets importants, puisque vous savez, d'un salon à l'autre, les priorisations et priorités de nos habitants continuent d'évoluer.
Ouais. Tiens, justement, vous disiez il y a un instant, il y aura probablement des ministres qui nous rendront visite au salon de l'AMIF. J'ai envie de vous dire, tiens, est-ce que Valérie Pécresse, si elle est réélue, sera là ?
Écoutez, Valérie n'a jamais failli à sa présence à l'inauguration du salon depuis que je le préside et depuis qu'elle préside la région. Donc, je croise les doigts, je ne vais pas gérer son agenda tout de suite. Il faut qu'elle soit réélue. Je crois que ce sera le cas. D'ailleurs, ce sera à peine deux jours après les élections, trois jours. Mais je pense que Valérie sera là, comme d'habitude, bien sûr.
Alors, je vous pose aussi cette question. Alors, je ne résiste pas, évidemment, quelque part, parce que c'est un peu politique. Mais si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a quelques jours, le candidat de La République En Marche, Laurent Saint-Martin, disait que lui ne se servirait pas de la région comme d'un marchepied vers l'Élysée s'il était élu, ce qui n'était pas le cas de Valérie Pécresse. Vous avez envie de lui répondre quoi ?
Rien, c'est pas mes affaires. Je suis président de l'AMI. Valérie Pécresse, ouais. C'est une présidente de région qui a incarné formidablement, je crois que c'est la première fois, la région Île-de-France. Avant, on ne savait pas forcément ce qu'était la région, on ne savait pas forcément qui la présidait. À travers la crise sanitaire et l'accompagnement du quotidien, les masques, les tests, enfin, on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples, la région a été ultra présente auprès des collectivités communales, du bloc communal aussi, d'ailleurs des agglomérations également. Et par conséquent, le sujet de la présence de Valérie Pécresse, du ou de la présidente de la région à l'inauguration du salon, n'a rien à voir avec ce qui pourra se tramer à l'occasion de l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon sujet.
Bon, on va dérouler les thématiques, évidemment. Stéphane Baudet, vous en avez un petit peu parlé il y a quelques instants. Commençons par les élus locaux. Les élus locaux et la justice dans les territoires. Alors tout d'abord, moi je voudrais donner quelques pourcentages, quelques chiffres que vous connaissez. 70% des élus d'Île-de-France ont déjà subi une agression physique ou verbale. 80% dans le cadre de leur activité d'élu local. D'abord, vous-même, qui est Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes, est-ce que vous avez été victime, déjà, de ce genre d'agression ou d'agissement ?
Oui, j'ai été victime de menaces de mort pendant près de 3 ans. C'était il y a 20 ans, tout pile, hein, parce que je suis maire depuis 20 ans. Des jeunes qui m'attendaient en bas de chez moi avec des fusils à pompe. Donc oui, j'ai connu cela, soit dans la lutte contre les trafics, soit dans la lutte contre l'achat de la paix sociale. Mais me concernant, c'était à une autre époque. Je suis maire depuis suffisamment longtemps pour avoir une relation apaisée avec mes habitants. Mais ce que vivent mes collègues, ce qu'il m'arrive moi de vivre sur les réseaux sociaux, c'est évidemment une libéralisation totale de la haine, telle qu'on la voit se traduire sur les médias, où on organise quasiment le cirque des combats, des joutes verbales entre les invités matin, midi et soir, une libéralisation de la parole sur les réseaux sociaux qui incline assez souvent à la haine et à une forme de violence, et donc sa traduction dans la rue, avec une population, une paupérisation qui est réelle de la population. On la sent depuis des années, une exacerbation, la crise sanitaire, les confinements successifs n'ont évidemment rien arrangé à cela. Et puis, on le voit hein, à travers tous les actes de violence, des féminicides, par exemple, mais aussi les morts dans les rixes chez les jeunes, toute catégorie d'âge, parce que ce n'est pas les jeunes qu'il faut cibler, une capacité maintenant de passage à l'acte, d'impatience, qui fait que quand on veut quelque chose, si on ne l'a pas, on se donne la capacité de pouvoir devenir violent. Et évidemment, les maires étant les sentinelles de la République, ils sont à portée de baffe, ils sont sur le terrain, bah ils sont avec leurs élus locaux, les conseillers municipaux, les maires adjoints, les plus exposés à prendre des coups. C'est nous qui avons la population dans nos permanences, c'est nous qui avons la population face à nous dès lors qu'on en sort de chez nous. Elle vient même d'ailleurs taper à la porte de chez nous. Et quand il neige, c'est à cause du maire. Donc on ne se pose même pas la question de savoir si c'est la compétence de la collectivité. De toute façon, c'est à cause du maire. Mmh. Tous les sujets de la société. Pour les Français, vous savez, il n'y a plus que 2 élus qui existent dans la constellation institutionnelle du pays. C'est le président de la République pour l'icône qu'il représente à l'échelle nationale et le maire pour tout faire sur le terrain. Donc, par conséquent, on est victime de cette violence. Vous l'évoquez, hein,
70% des élus
qui ont subi une agression, oui, c'est considérable.
Vous dites c'est à cause du maire et en même temps, comme vous le dites également, et c'est ça qui est assez ambivalent quelque part, c'est que le maire est l'élu préféré des Français.
Oui, mais pour la même raison. Ben, c'est un peu qui aime bien châtie bien, mais en même temps, on le connaît. Il est identifié, on sait où il habite, on sait s'il répond. Enfin, mine de rien, le maire, il donne à manger aux enfants tous les jours à la cantine, il s'occupe de réparer le nid de poule devant chez vous. Voilà, donc il interagit avec les habitants en permanence. On est d'ailleurs aujourd'hui surexposé par les réseaux sociaux. Enfin, moi, quand je me suis présenté pour la première fois il y a 20 ans, ce n'était pas pour le métier que je fais aujourd'hui. Ça a profondément changé, cette surexposition qui fait que je répondais par courrier sous 15 jours il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, je réponds à une centaine de mes habitants en direct sur Messenger, matin, midi et soir. Donc le maire est aussi l'élu préféré des Français parce qu'il est la personne idoine, la personne identifiée et la personne sur laquelle on peut se reposer. Enfin, imaginez la crise sanitaire que l'on vient de vivre sans l'interaction entre la région et les communes. Voilà, par exemple, très concrètement depuis un an et demi. Dans quelle situation on serait ? Donc les Français sont aussi parfaitement conscients de cela.
Ouais. Dites-moi, dans ce contexte de violence, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, très concrètement, quand vous parlez avec vos collègues, est-ce que les maires ont peur aujourd'hui ?
Oui, ils sont inquiets. Clairement, ils sont inquiets. Il y a de plus en plus de sécurisation. Il y a la question des agressions physiques, il y a la question des menaces. Il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées. Il peut y avoir aussi d'ailleurs des plaintes à l'endroit des à l'endroit des élus, ici parce qu'il y avait une boulette de viande qui, par le plus grand des hasards, était moisie à la restauration, ici parce que quelqu'un est tombé d'un trottoir, donc ils ont peur en permanence. Être maire, oui, c'est clairement avoir peur. Moi, je le dis souvent, hein, être maire 24 heures sur 24, c'est dormir maire, c'est rêver maire, c'est manger maire. On n'est jamais à l'abri d'avoir une catastrophe, un gamin qui s'évade d'une école, d'un centre de loisirs. Donc le risque, il est permanent. Si vous y ajoutez en plus la question des violences, oui, enfin... D'ailleurs, s'il y en a de moins en moins de personnes qui candidatent pour ce type de fonction, pourtant si essentielle à notre vigueur démocratique qui souffre beaucoup par ailleurs, c'est aussi pour cela, clairement.
Alors, dites-moi, les maires, aujourd'hui, vous l'avez dit, ont peur. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme mesure pour les rassurer? Vous avez des pouvoirs de police, par exemple. Est-ce qu'il faudrait renforcer ces pouvoirs de police?
Non, c'est pas tellement ça le sujet. Enfin, le maire qui se fait agresser, il va pas coller l'agresseur par terre, lui mettre la bras dans le dos comme on le voit dans les films, et lui coller des menottes. Le sujet pour nous, c'est évidemment pouvoir accéder à la protection fonctionnelle plus rapidement qu'une délibération au conseil municipal. C'est le soutien psychologique en matière d'accompagnement, c'est la facilitation du dépôt de plainte avec une plateforme dédiée aux élus, des choses que l'on a déjà demandé dans nos différents livres blancs sur la sécurité. Évidemment, une meilleure collaboration police-justice. C'est un vieux sujet. Et puis surtout, enfin, de véritables sanctions envers les agresseurs. Parce que de ce point de vue-là, on a, comme sur bien d'autres sujets d'ailleurs dans ce pays, des traitements très, très différents d'un tribunal à l'autre. Entre une admonestation, un rappel à la loi pour certains dans certains départements, et puis un autre qui prend 6 mois ferme. C'est le grand écart permanent. Le maire, enfin, l'élu en général, mais comme le pompier, comme l'infirmier, comme le médecin, comme le policier, doit avoir une forme de protection, et la sanction dès lors qu'il est agressé doit être réelle, ferme et rapide.
Est-ce que vous êtes favorable, Stéphane Baudet, à ce que font d'autres maires? Je pense à Carl Olive, hein, que vous connaissez bien, par exemple, qui est déjà venu dans cette émission il y a quelques mois, qui a pris des initiatives, c'est-à-dire que des aides prévues pour certaines familles ont été sucrées, si je puis dire, parce que enfants s'étaient mal comportés. Est-ce que ça, par exemple, il faut le faire? Je termine ma question. Est-ce qu'il faut aller taper sur les familles? Parce que ce sont quand même les mêmes familles qui reçoivent les aides de l'État, les allocations familiales, etc., et qui, en même temps, on a l'impression, en tout cas, qu'elles ne suivent pas vraiment leurs jeunes, quoi.
Non, enfin, moi, je suis pas pour. J'ai quantité d'exemples dans les quartiers populaires de ma ville. Vous savez, je suis maire d'une ville de 70 000 habitants, 37 000 dans ce que l'on appelle les zones urbaines sensibles. Je peux vous citer une palanquée d'exemples où j'ai 1-2 délinquants dans la famille et 1 ou 2 autres enfants qui ont fini médecins. Évidemment qu'il y a une responsabilité parentale, mais elle est sociétale, cette responsabilité parentale. C'est pas un parent dans un coin qui a décidé d'abandonner. C'est une évolution de la société à laquelle on doit faire face. La question des allocations, elle ne finirait que par aggraver une situation sociale déjà particulièrement précaire. Elle finirait évidemment par tendre une famille et l'éloigner peut-être un petit peu plus de la République au moment où on a plutôt tendance à avoir besoin de faire sens commun, dessein commun tous ensemble. Donc pour moi, c'est pas la bonne solution, mais Carl expérimente, d'autres élus expérimentent d'autres solutions. Très bien. En tout cas, moi, c'est pas ainsi que je fonctionne.
Stéphane Baudet, autre sujet qui sera abordé au salon de la MIF, la décentralisation. Vous avez lancé une grande consultation auprès des élus d'Île-de-France, justement, des maires. Pourquoi cette consultation, Stéphane Baudet? La décentralisation est en danger?
Oui, il y a deux natures de débats qu'on pourrait distinguer et qui finissent par se regrouper. Il y a d'abord la question technique et financière de la perte d'autonomie financière et fiscale des collectivités, qui est une réalité. On a perdu des dotations très très fortes, on perd la taxe professionnelle il y a quelques années, qui était une taxe dynamique sur laquelle on avait un levier et un pouvoir politique pour mener nos actions, y compris d'ailleurs pour contrer d'une certaine manière les baisses de dotation de l'État. On nous l'enlève, on nous la remplace par une formule qui est évidemment par nature moins dynamique. On a dans les quartiers populaires une perte du foncier bâti sur des bailleurs sociaux, qui est une recette que touche la collectivité, mais dont l'État décide d'exonérer les bailleurs. Donc on a des pertes de recettes comme cela, évidemment indirectes. On voit bien d'ailleurs à travers le plan de relance, ou la DICIL, pour être un peu technique, que quand l'État redonne une forme de bouffée d'oxygène aux collectivités, il redonne plus d'argent directement à la collectivité, mais il la donne au préfet, lequel la redistribue aux maires si les maires sont dans des actions qui ont été définies par le gouvernement. Donc en matière d'autonomie, il y a quand même quelque chose qui, du point de vue constitutionnel, commence à profondément interroger les maires. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y a le deuxième sujet qui est celui de la décentralisation telle qu'elle a été conçue en Île-de-France, avec la création de la métropole du Grand Paris, des distinctions territoriales qui font qu'en Grande Couronne, vous êtes dans le bloc communal des communes à l'intérieur d'établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, communautés d'agglomération, communautés de communes, etc. Alors que sur la petite couronne, vous êtes à l'intérieur de la métropole du Grand Paris et vous vous adossez sur ce qu'on appelle des EPT, c'est-à-dire un traitement différencié. D'ailleurs, pour comprendre la différence complètement d'ailleurs absurde pour les habitants, hein, qui ne savent d'ailleurs peut-être pas forcément, quand vous votez aux élections municipales à Évry-Courcouronnes, en Grande Couronne, sur la liste des municipales, vous avez les gens qui sont fléchés pour aller siéger à l'agglomération, alors que quand vous le faites dans la petite couronne ou à Paris, vous fléchez celles et ceux qui vont à la métropole du Grand Paris, mais pas dans les EPT. Donc il y a des différences fiscales, il y a des différences de financement, il y a des différences de positionnement. Il y a évidemment un millefeuille dans lequel on a ajouté un étage sans aller au fond de la discussion sur les départements, la transformation d'EPT en EPCI, etc. Et puis vous avez enfin, c'est pas neutre, hein, une région tout à fait particulière, vous l'évoquiez tout à l'heure, plus de 1200 communes. Sur ces 1200 communes, vous en avez 800 qui n'ont pas 2000 habitants. On oublie que la région Île-de-France
qui sont des communes
est à l'image. Exactement, est à l'image de ce qu'est la France. C'est une région de village, la région Île-de-France. Hein. Il y a très peu de très grandes villes, en réalité. Il y a une concentration très dense dans la petite couronne. Il y a Paris, et c'est un peu plus de 2 millions d'habitants, mais j'ai aussi des villages de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, qui font 35 habitants. Et en l'occurrence, le décalage de relations à l'État, les RGPP sont passés par là. Vous n'avez plus de services déconcentrés de l'État dans les départements. Par exemple, le plan de relance aujourd'hui, à mettre en œuvre pour une collectivité de taille moyenne qui n'a plus le soutien technique de l'État, comme on l'avait à travers, par exemple, les DDE il y a 20 ans, fait que ces communes ont un sentiment d'abandon colossal.
Ne vous plaignez pas, la Macronie vous a sorti les maisons France Service. C'est quand même génial.
Voilà, c'est ça. J'ai peur que ça réponde pas à des années de RGPP, d'économie et de recul, mais enfin, c'est ainsi. Mais enfin, en tout cas, on s'est dit à la MIF, avec Jean-Philippe Dugoin-Clément notamment, Luc Cardonas et toutes nos équipes, Jacques J.P. Martin et bien d'autres, qu'il fallait ouvrir des états généraux de la décentralisation, interroger les maires, tous les maires d'Île-de-France, de façon très libre, très ouverte, sur leur relation à leur collectivité voisine, qui est l'agglomération, ce qu'on appelle le bloc communal, qui est leur relation au département, qui est leur relation à la région, qui est le cas échéant leur relation à la métropole du Grand Paris, mais également qui est leur relation à l'État. Quand on a par exemple un État où sur certains départements pendant la crise sanitaire, le préfet autorise la réunion des marchés forains, alors dans d'autres départements voisins, il ne l'autorise pas. Quand vous avez des préfets qui autorisent des polices municipales armées et que le voisin ne l'autorise pas, etc., les maires sont excédés, n'y comprennent plus rien. Et donc on leur a demandé comment, alors que la municipalité doit rester le pilier de notre démocratie, on doit réorganiser notre process de fonctionnement en fonction de la taille des collectivités, en fonction de notre éloignement de Paris, notre relation à l'État. Donc c'est ce travail très ouvert qu'on a initié, qui a été décliné ensuite avec des tables rondes assez fonctionnelles, avec beaucoup de débats, une centaine de participants à chaque fois, des débats qui continueront d'ailleurs pendant le salon, et notre volonté d'aller avec une plateforme de propositions taper à la porte de tous les candidats à l'élection de la présidentielle pour dire « voilà notre contribution ». On a vécu des allers-retours, des marches en avant, des pas en arrière considérables de la part du gouvernement ou du président de la République, par exemple sur la question de la métropole du Grand Paris. Au début du mandat présidentiel, on nous dit « il va faire sauter la métropole du Grand Paris ». Et souvenez-vous-en d'ailleurs de faire sauter également les départements de la petite couronne.
C'est vrai.
Ce à quoi Patrick Devedjian et Pierre Bédier ont répondu avec la création d'un super département. Ça a fonctionné, le président de la République a reculé, et depuis on avance, on recule, et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Donc nous, on fait sans dogmatisme, sans se dire « je suis proche de Valérie Pécresse et donc de la région, donc je veux ça, je suis proche de Patrick Ollier, donc de la métropole, donc je veux ça ». Non, on s'est posé les questions très claires. Quelle est la relation fonctionnelle des communes avec l'ensemble des partenaires et vers quoi on doit tendre pour que la nature du service public que l'on donne à nos habitants soit la bonne.
Voilà, alors, moi je vous pose une question simple, Stéphane Baudet, parce qu'effectivement, vous mettez le doigt où ça fait mal, si je puis dire, dans la mesure où, effectivement, on a ce millefeuille aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Je crois que honnêtement, il n'y a pas un seul habitant d'Île-de-France qui comprend ce que fait aujourd'hui la région, la métropole, qui s'occupe de quoi. Non, mais franchement, il y a un vrai problème par rapport à ça. Mais attendez.
On est en campagne régionale. Imaginez le gamin de 18 ans qui vote pour la première fois de sa vie, à qui on dit qu'on est en campagne régionale, et qui va aller voter pour une liste départementale. Il ne comprend rien.
Ah non, mais je vais même vous dire mieux, il n'ira pas voter. Ça va être plus simple.
D'ailleurs,
ben oui, c'est, bon, bah, voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Non, moi, et renvoyons-la sur l'exposition du maire.
La question que je vous pose, elle est très simple. Est-ce qu'on finira par arriver quelque part à quelque chose d'assez dramatique, à mon sens ? Je pense que l'échelon communal est celui, effectivement, qui est le plus palpable. Et Dieu sait, ici, sur Radio Territoria, si l'on défend les communes et l'esprit des communes. Mais moi, j'ai envie de vous dire, dans cette grande région Île-de-France, avec tout ce qui se passe en termes de millefeuilles administratifs, là, et d'échelons, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas une crainte que les communes disparaissent ?
Je n'y crois pas, je ne vois pas. J'imagine
ou alors
que
qu'elles se regroupent pour certains... devenir...
J'imagine que dans la tête de certains technos, la question de la disparition des communes a dû se poser, mais c'est le lien démocratique, c'est inviolable. Je pense que la relation des maires et des Français, c'est impossible d'aller là-dessus. En revanche, qu'il y ait une incitation pour, là où c'est possible, créer des communes nouvelles à la volonté des élus. Enfin, moi, je suis maire
d'Évry-Courcouronnes,
qui est la création de la plus grande commune nouvelle intégrée de France. Il y a eu près de 700 communes nouvelles depuis 10 ans en France. Elles font quasiment toutes moins de 10 000 habitants. Nous, on est le cas unique. Il y a deux autres cas de taille à peu près analogue, que sont Annecy et Cherbourg, mais qui ont gardé une fonctionnalité quasiment intercommunale puisque chaque majorité municipale est restée en place. Nous, on a fait une seule et même commune intégrée avec un seul conseiller municipal. On a baissé 30% le nombre d'élus, d'ailleurs. Voilà. Mais justement, on l'a fait, nous, pour renforcer notre poids à l'intérieur de notre agglomération et renforcer notre poids dans notre discussion à l'État. Mais ça s'est fait sur la construction d'un projet politique. Or, moi, j'ai quand même une inquiétude. Ça arrivera un jour, comme ça s'est passé d'ailleurs en Allemagne, en Belgique ou ailleurs sur les 30 dernières années, qu'un jour, quelqu'un décide de dire « voilà, il y a 36 000 communes en France, faites-moi un plan pour qu'il n'y en ait plus que 2 000 ou 3 000 ». Moi, j'ai peur que ça finisse par arriver un jour. Donc, j'incite mes collègues à travailler à des rapprochements quand ils le veulent, mais je préfère que ce soit d'une initiative politique et que ce soit un projet des moyens et pas l'inverse, comme l'État l'a fait en nous imposant des territoires intercommunaux qui n'avaient pas de sens pour nous demander 6 mois après, est-ce que vous pourriez nous pondre un projet ? Voilà. Donc, il peut y avoir des rapprochements de communes intelligents, c'est pas nécessaire partout, mais il y a plein de projets qui existent en région Île-de-France. Certains ont avorté avant les élections municipales parce que l'approche politique, mais souvenez-vous qu'on parlait même d'un rapprochement Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux, il y a quelques années.
Ouais.
Donc cette question du rapprochement des communes est un sujet qui est là. Il ne faut pas forcer, mais je suis un des exemples qui peut dire que ça peut marcher.
Stéphane Baudet, autre sujet, la région et l'État ont signé le 4 mars dernier un plan de relance de 13,8 milliards d'euros pour l'Île-de-France dans trois domaines prioritaires, transition écologique, soutien à l'économie et cohésion sociale. Cette signature a été complétée d'ailleurs par celle des orientations du contrat de plan État-région 2021-2027. Comment les communes vont bénéficier de ce plan ? Ça va se traduire de quelle manière concrète ? Tiens, par exemple, chez vous, à Évry-Courcouronnes.
En fait, c'est très, très compliqué pour la commune elle-même parce que pour pouvoir bénéficier du plan de relance, il faut avoir des projets qui soient déjà lancés et qui soient finalisés en matière de dépenses avant la fin de l'année, ce qui, dans les délais administratifs qui nous sont imposés par le même État d'ailleurs, parfois un peu schizophrène, est quasiment impossible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a lancé les états généraux de la relance économique et que dès que le plan de relance a été fait, la MIF, la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France et la région Île-de-France, on a réuni tout le monde pour dire de quelle façon on allait essayer d'aider, d'accentuer, d'aiguillonner celles et ceux qui pouvaient se saisir du plan de relance, à la fois nos entreprises sur nos territoires, mais j'étais par exemple moi cet après-midi en réunion avec l'ensemble du campus dit évrien, mes grandes écoles internationales, l'université, pour qu'en matière de plan de relance, sur la question énergétique par exemple, on fasse des dépenses tout de suite. On a déjà mobilisé près de 5 millions d'euros sur notre territoire sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc notre rôle, c'est aussi de faire courroie, parfois de rapprocher ou de remplacer cet État déconcentré qui a parfois disparu pour essayer de venir inciter sur les territoires notre tissu économique, notre tissu industriel, notre tissu scientifique, de s'en saisir. Mais pour les collectivités elles-mêmes, excepté les grosses qui avaient déjà des projets dans les tuyaux, pour les petites par exemple, essayer d'utiliser le plan de relance, c'est quasiment impossible.
Ouais. Il y a quand même des leviers intéressants, j'imagine, et sur lesquels vous travaillez. La rénovation énergétique, tiens, par exemple, vous l'évoquiez, la rénovation
oui,
des bâtiments,
mais on
des
le fait
bâtiments
tous.
Publics.
Mais les délais de montage des dossiers, Bien sûr. Enfin, les délais de montage des dossiers, moi, s'il faut que j'ai lancé un marché d'appel d'offres, que j'ai fait des études et qu'en plus j'ai dépensé tout l'argent avant la fin de l'année pour que le gouvernement ait un résultat, c'est juste pas possible. Donc, je viens de me faire retoquer, par exemple, sur une aide que j'avais demandée pour la réhabilitation d'une école dans laquelle les questions énergétiques se posent. Les travaux sont à cheval sur le budget 2021-2022. L'État m'a dit non parce que c'est pas fini fin 2021. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, mais c'est toujours la même difficulté, c'est la schizophrénie entre j'annonce 100 milliards à l'échelle nationale, puis je vous rappelle quand même accessoirement, je me permets de vous le dire, hein, mais sur 100 milliards de plans de relance, il y a 1 milliard qui concerne les collectivités, et à l'intérieur du milliard, c'est 800 millions qui intéressent que le bloc communal, hein, donc on est très très loin
autant dire une paille,
du plan de relance.
Oui.
Exactement.
Dites-moi.
Et d'ailleurs, par exemple, il y a un plan du plan de relance sur lequel on a beaucoup de demandes. Je crois qu'on est de l'ordre de 3 fois plus de demandes que de capacité de l'État pour l'instant. C'est par exemple le plan Friche. Voilà.
Ouais.
Donc on a fait des demandes pour augmenter les enveloppes sur lesquelles on peut venir tout de suite chercher des sous.
Dites-moi, le logement, vous parliez des friches, les maires appuient quand même sur le frein pour la construction neuve, hein, un peu partout en France, pris finalement entre deux feux au moins, entre le feu de riverains qui n'acceptent plus, d'électeurs potentiels d'ailleurs, qui n'acceptent plus, qui ne supportent plus des travaux sous leurs fenêtres, et puis des textes de l'État, poussés par l'Europe d'ailleurs, par exemple, sur le zéro artificialisation net, le zéro béton. Comment on fait, Stéphane Baudet ?
Mais je reviens à cette schizophrénie de l'État. On a un SDRIF qui doit dater de 2008, chez ma directeur de la région Île-de-France, qui nous imposait 70 000 logements par an. On a mis plus de 10 ans à les atteindre. La seule année où on a eu 70 000 dépôts de permis de construire, c'était en 2019. Boum, la crise sanitaire est passée par là, ça s'est effondré. Vous y ajoutez évidemment les élections municipales, mais vous y ajoutez également la question écologique qui s'impose à toutes et tous. Le fait que d'un seul coup, mais quasiment d'un seul, les habitants qui ne se souciaient pas forcément majoritairement de la question écologique, aujourd'hui vous empêchent d'arracher le moindre arbre, même malade. C'est-à-dire qu'enlever un arbre dans une ville, c'est devenu quasiment impossible. Et en même temps, vous avez 500, 600, 6500 à Évry-Courcouronnes demandes de logement. De 6500 demandes de logement. C'est-à-dire que vous avez des habitants qui ne veulent pas arracher les arbres, vous avez des demandes de logement, vous avez un État qui vous dit « il faut construire des logements » parce qu'il manque 1 million de logements en 2032 en France. Et en même temps, il vous dit, mais alors voilà, il faut déployer des zones zéro artificialisation nette. Bref, en clair, vous devez construire, vous ne devez reconstruire que sur la ville. C'est-à-dire là où il faudrait qu'on fasse des poches vertes, là où il faudrait qu'on fasse des îlots de chaleur, il faut qu'on vienne continuer de densifier les îlots de fraîcheur, etc. Donc en fait, on est dans une schizophrénie ambiante qui d'ailleurs oppose des ministres entre eux. C'est-à-dire que le ministre du logement va vous dire qu'il faut construire du logement, le ministre de l'écologie va vous dire attention au terrain que vous allez toucher. Donc on est sur un espèce d'entre-deux, on est dans une période de changement de dogme où ça devient extrêmement difficile, et vous avez raison de dire, les habitants sont maintenant très à l'affût sur ces sujets-là, on ne peut plus urbaniser n'importe quel terrain, et c'est heureux, hein, parce que je crois qu'on l'a trop fait et trop mal fait, même si il y a eu un gros correctif avec le nouveau SRIF par rapport au schéma directeur de l'État de 1994 qui, lui, alors là, pour le coup, prenait l'étalement urbain à tout craint. Mais on est dans cette schizophrénie, dans ce moment où les maires continuent d'avoir envie de construire parce qu'ils en ont besoin. Enfin, moi, j'ai 6500 demandes de logement, j'ai 400 logements qui se libèrent par an. Donc, si je ne construis pas, ça, l'équation, évidemment, ne marche pas. Mais les conditions pour lesquelles on est prêt maintenant à construire ne sont plus les mêmes. Il y a l'acceptabilité de nos habitants. Il y a aussi les moyens que nous donne l'État pour construire les équipements publics qui permettent à ces habitants que l'on accueille d'être bien accueillis. Et ça, c'est pas rien.
Stéphane Baudet, on aura l'occasion de reparler de tout ça, évidemment, pendant le salon de la MIF. Une dernière question, parce que, vous le savez, cette émission s'appelle « L'Express du Grand Paris ». Ce n'est pas un hasard, c'est que chaque mois, nous faisons le point sur la situation des travaux selon les communes, selon les villes concernées, ou pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des villes qui se plaignent de ne pas avoir de stations et de nouvelles gares. C'était parfois d'ailleurs les mêmes qui n'en voulaient pas. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, est-ce qu'il y a toujours des retards dans les travaux du Grand Paris Express à l'heure où l'on se parle ? Je le rappelle, 68 gares, 200 km de nouvelles voies,
oui,
etc.
Oui, évidemment, enfin, il y a des retards, sur certaines lignes, c'est une douce évidence. Il y a des retards sur la planification des quartiers de gare. La MIF a d'ailleurs, avec les maires, fait le lien avec le préfet de région pour essayer de relancer un petit peu cette question-là. Donc oui, l'ambition initiale du projet a du retard. Mais si je change de casquette et que je redeviens vice-président transport de la région, il faut absolument que le Grand Paris Express soit réalisé vite et qu'au moins la boucle de la ligne 15 soit une boucle. Ouais. Si jamais quelqu'un lâchait en cours de route et que ce métro ne fasse pas une boucle, alors tout le système de transport qui repose dessus serait voué à l'échec.
Merci beaucoup Stéphane Baudet. Avant de vous quitter, je voudrais vous présenter ce livre qui est sorti tout juste là, il y a quelques heures, quelques jours maintenant. Je ne sais pas si on le voit bien parce que je ne vois pas évidemment de mon côté. Ce livre très intéressant, Les Sentinelles de la République, une histoire des maires de France aux éditions du CERF. C'est Jean-Victor Roux qui a écrit ce livre. Et en fait, c'est l'histoire des maires qui ont compté. Alors évidemment, c'était d'autres époques, hein. Si on parle de Gaston Defferre, par exemple, à Marseille, Chirac, maire de Paris, hein, premier maire de Paris, il faut le rappeler, bien évidemment. Et c'est un peu leur histoire, voilà, dans ce livre absolument exceptionnel que je vous conseille. Voilà, je cherche la caméra. Une fois que je l'ai trouvée, ça va beaucoup mieux, bien évidemment. Merci beaucoup, Stéphane Baudet, président de l'Association des maires d'Île-de-France. On se retrouvera en direct, évidemment, pour le salon de la MIF sur Radio Territoria, les 30 juin et 1er juillet prochains, au centre des expos de Villepinte, c'est au nord de Paris avec notre partenaire en ce qui nous concerne Alila. Et d'ici là, les podcasts Radio Territoria, on vous embrasse et à très vite.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.